Les zones d'ombre de l'histoire.
Le matin du 28 septembre 1978, les agences de presse du monde entier annoncent la mort du pape Jean-Paul Ier. L'émotion est grande chez les catholiques, mais au-delà des croyants, c'est aussi la surprise. En effet, celui qui a été très vite surnommé « El Papa del Sorriso », le pape qui sourit, n'a régné que 33 jours. Il avait été élu le 26 août au terme d'un scrutin assez court. Sa mort serait intervenue vers 23h le 28 septembre et selon le médecin du Vatican, il aurait succombé à un infarctus du myocarde. Toutefois, les mois et les années qui vont suivre seront riches en spéculations sur les vraies causes du décès de Jean-Paul Ier. Et aujourd'hui encore, le sujet fait débat. Il y a d'abord les contradictions et dissimulations du Saint-Siège sur les heures qui ont précédé et suivi la mort. Il y a aussi l'empressement des services médicaux de la cité papale à délivrer le certificat de décès. En l'occurrence, la dépouille sera embaumée. Mais il y a surtout ce que Jean-Paul Ier avait découvert en prenant ses fonctions. En cette fin d'été 1978, le Vatican connaît les premiers tourments d'un scandale financier qui ne va cesser de s'amplifier et qui impliquera des prélats occupant de très hautes fonctions. On apprendra que le pape avait l'intention de sanctionner ses comportements et de réformer l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion. A-t-il payé de sa vie son souhait d'assainir la Banque du Vatican, une banque sur laquelle, on ne tardera pas à l'apprendre, planait l'ombre de la mafia.
Thank you. primavera.
Radio Campus Paris, les zones d'ombre de l'histoire.
Albino Luciani naît le 17 octobre 1912 dans un petit village du nord de l'Italie. Il est issu d'une famille modeste et montre très tôt un intérêt pour le christianisme. Il entre au petit séminaire, les études de théologie l'intéressent et il est doué. Il devient docteur en théologie et est ordonné prêtre en 1935. Il va alors connaître une irrésistible ascension qu'il doit entièrement à la fidélité à ses valeurs et à la religion. L'homme n'est pas un ambitieux, il est timide et humble. Nommé évêque en 1958, c'est en 1962 qu'il est pour la première fois confronté aux turpitudes qui peuvent parfois animer les hommes d'église. Deux prêtres de sa paroisse spéculent avec les dons financiers des fidèles. Non seulement Luciani ne couvre pas les malversations, mais il rembourse intégralement les victimes en vendant quelques biens de sa paroisse. En 1969, l'évêque Luciani est nommé patriarche de Venise et en 1972, il prend la direction de la conférence épiscopale. Mais cela ne change rien à ses habitudes. Il reste attentif au quotidien des fidèles. En mars 1973, il est promu cardinal par le pape Paul VI, à qui il succède le 26 août 1978, au terme d'un scrutin très court où il n'était pas le favori. Comme souvent au Vatican, une tendance conservatrice et une tendance libérale étaient représentées. Aucun de ces deux courants n'ayant pu imposer son représentant, Albino Luciani s'est avéré être le choix du consensus, n'appartenant à aucune de ces deux orientations. Il est immédiatement apprécié par les Italiens, qui reconnaissent en lui un homme proche du peuple. Sa timidité, que l'on perçoit lorsqu'il s'exprime, le sourire qui illumine en permanence son visage, mais surtout le contenu de ses discours, le rendent immédiatement sympathique. Ses prêches reviennent souvent sur la nécessité d'un retour de l'Église vers la simplicité et les valeurs humanistes. Il dénonce l'opulence et dit que tous les travailleurs devraient être dignement payés. Quelques années avant son élection, en 1973, au moment où il est nommé cardinal, Albino Luciani lève sans le vouloir une partie du voile qui recouvre les malversations financières qui se trament au Vatican depuis déjà longtemps. Cette année-là, en effet, il sollicite un prêt à la Banca Cattolica del Veneto, une banque qui prête aux ecclésiastiques à des taux d'intérêt très bas. Mais la surprise est grande lorsqu'il découvre que l'établissement financier vient de relever ses taux de façon spectaculaire. Cela provoque l'indignation chez les évêques et le futur pape pose des questions. Il apprend alors qu'une partie du capital de la banque a été cédée à un autre établissement financier, le Banco Ambrosiano. L'opération a été supervisée par la Banque du Vatican et son dirigeant, l'archevêque Paul Marcinkus. Albino Luciani a visiblement rencontré Marcinkus pour obtenir des explications. On ne sait pas ce que se sont dit les deux hommes, mais apparemment, l'entretien ne se serait pas très bien passé. L'affaire en reste là, car la Banque du Vatican est sous la seule responsabilité du pape et de son directeur. L'établissement n'est soumis à aucun autre contrôle. Mais 5 ans plus tard, et alors qu'il n'occupe la charge de pape que depuis quelques jours, Jean-Paul Ier va être confronté à des révélations fracassantes sur l'IOR et sur certains prélats de la Curie Vaticane. Il reçoit en effet un document de l'Office italien du contrôle boursier dans lequel il est rappelé que la Banque du Vatican est un établissement financier étranger et qu'à ce titre, ses opérations impliquant la lire, la monnaie italienne de l'époque, doivent être totalement transparentes. Le document poursuit en indiquant qu'il a été constaté d'importants flux financiers en lire dont la provenance n'est pas clairement établie et dont la destination renvoie à des pays ou des établissements se caractérisant par une certaine opacité. Autrement dit, des paradis fiscaux. Le pape demande des explications au secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Villo, ainsi qu'à d'autres prélats. Il apprend alors que sous la direction de l'archevêque Marcinkus, la Banque du Vatican a de nombreux liens d'affaires avec Roberto Calvi, qui dirige le Banco Ambrosiano, mais a aussi traité avec un certain Michele Sindona, avocat proche de la mafia et banquier sulfureux dont l'empire s'est effondré en 1973 et qui est depuis en fuite aux États-Unis. Jean-Paul Ier est abasourdi, d'autant plus qu'apparemment les agissements de Paul Marcinkus étaient connus. Mais le souverain pontife n'est pas encore au bout de ses peines.
Il y a plein d'argent au Vatican, des rubis, des louis, des diamants. Il y a plein d'argent au Vatican, mais ce n'est pas pour les enfants.
Saint-Pierre de Rome s'affale sous le poids des lingots. Faudrait des succursales ou bien faire des travaux. Si lourde est la cassette dont les papes sont coiffés, que lorsqu'ils baissent la tête, c'est pas d'humilité.
Il y a plein d'argent au Vatican, des rubis, des louis, des diamants. Il y a plein d'argent au Vatican, mais ce n'est pas pour les enfants.
Il y a tant d'or dans les cuves qu'ils passent par-dessus bord. C'est pour ça que le Vésuve vomit des lingots d'or. Et même la tour de Pise est prête à s'écrouler, ainsi que les églises, elle est pleine à craquer.
Y'a plein d'argent au Vatican, des rubis, des louis, des diamants. Y'a plein d'argent au Vatican, mais ça n'est pas pour les enfants.
Il pourrait toujours faire un peu de vide en appelant les camions de l'abbé Pierre aux caves du Vatican. Mais au jugement dernier, qui ne trouvera en coulisse que des toiles d'araignée. Tout sera planqué en Suisse.
Y'a plein d'argent au Vatican, des rubis, des louis, des diamants. Y'a plein d'argent au Vatican, mais ce n'est pas pour les enfants.
Doudoum, 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 doudoum.
Top, top.
Doudoum, 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 doudoum.
Top, top.
Doudoum, doudoum, doudoum.
Au jugement dernier, Dieu ne pourra en coulisse que les toiles d'araignée.
Tout sera planqué en Suisse.
Y a plein d'argent au Vatican,
des rubis, des louis, des diamants.
Y a plein d'argent au Vatican,
mais ce n'est pas pour les enfants.
Y a plein d'argent au Vatican, des rubis, des louis, des diamants. Y a plein d'argent au Vatican, mais ce n'est pas pour les enfants.
Ce n'est pas pour les enfants.
Les zones d'ombre de l'histoire sur Radio Campus Paris.
L'Institut des œuvres de religion est au départ un établissement principalement chargé de gérer et administrer les biens du Vatican. Il s'agit la plupart du temps de biens immobiliers. En 1929, après les accords de Latran où l'autorité du Vatican est circonscrite au seul territoire de la Cité Vaticane, l'Italie alloue au Saint-Siège une importante somme d'argent en compensation des biens annexés. Alors la Banque du Vatican se transforme en une véritable banque chargée de gérer ses actifs financiers. Son premier directeur est un laïc et il exige d'être totalement libre dans la réalisation de ses opérations financières. De plus, l'établissement est placé sous la seule autorité du pape et c'est à lui seul que son conseil d'administration doit rendre compte. On voit donc que dès sa création, le fonctionnement de l'IOR est analogue à celui d'une banque privée. Il n'existe rien dans son règlement l'obligeant à une éthique particulière. Après la Seconde Guerre mondiale, l'IOR va pleinement devenir une banque d'affaires et généraliser ses investissements dans des sociétés cotées en bourse. Dès les années 50, on la soupçonnera d'avoir participé à la fuite de capitaux en provenance de la banque du Troisième Reich. En 1960, un certain Michele Sindona fait son entrée au conseil d'administration de la Banque du Vatican. C'est un avocat sicilien déjà soupçonné de proximité avec la mafia. Mais c'est aussi un banquier qui multiplie les acquisitions d'établissements qu'il intègre à son empire. Il est déjà depuis quelques années le conseiller financier personnel de l'archevêque de Milan, Giovanni Battista Montini, qui sera élu pape en 1963. Les deux hommes se sont rencontrés au moment où l'archevêque Montini cherchait à lever des fonds pour la création d'un établissement pour personnes âgées. Le futur Paul VI savait-il qui était réellement Sindona? Au début de cette même décennie, Michele Sindona rencontre Roberto Calvi, qui dirige le Banco Ambrosiano. Cet établissement a été fondé en 1896. Et si ses principes se voulaient être ceux d'une banque catholique, ils ont bien vite été oubliés. Michele Sindona va rapidement permettre au Banco Ambrosiano de faire des affaires avec la Banque du Vatican. En 1968, le prédécesseur de Jean-Paul Ier reçoit une première alerte. La presse italienne se pose des questions sur la nature de certains investissements en bourse de la Banque du Vatican et s'interroge notamment sur des actions détenues par l'IOR dans des sociétés d'armement ou dans des laboratoires fabriquant la pilule contraceptive. Le pape doit réagir et il demande à Michele Sindona d'assainir les investissements de l'IOR et de liquider les actifs boursiers encombrants. En 1969, Paul VI procède à une curieuse nomination. L'archevêque Marcinkus devient directeur de l'IOR. Paul Marcinkus fut évêque d'une banlieue de Chicago où sévissait la mafia italo-américaine, qu'il aurait apparemment fréquentée. C'est un ami de longue date du pape Paul VI. Il est aussi son garde du corps et chargé de la sécurité des déplacements pontificaux. Mais il n'a aucune compétence financière. Assisté de Sindona, Marcinkus va achever la mutation de l'IOR en une véritable banque d'affaires qui va multiplier les opérations boursières. Parallèlement, Michele Sindona et Roberto Calvi vont se lancer dans la fuite de capitaux vers des paradis fiscaux, en créant un labyrinthe d'établissements financiers écrans et à chaque fois, Paul Marcinkus est associé à leurs affaires. Le banquier sicilien est très en vue puisque même certains hommes politiques italiens lui confient la gestion de leurs intérêts. Mais en 1971, le FBI commence à s'intéresser aux sociétés de Sindona. Ces établissements financiers sont fortement soupçonnés de blanchir l'argent de la mafia. Mais il y a pire. Celui qui est, rappelons-le, membre du conseil d'administration de la Banque du Vatican, est soupçonné d'être au centre d'une gigantesque escroquerie dont la victime n'est autre que la Banque du Vatican. L'établissement catholique serait en effet en possession de faux titres boursiers émis par la mafia pour une valeur d'à peu près 1 milliard de dollars. En 1974, l'empire financier de Sindona s'effondre. C'est la banqueroute. Le Sicilien réussit à fuir aux États-Unis. Mais en Italie, les chefs d'accusation s'accumulent. Pourtant, au Vatican, on ne semble pas réagir et Paul Marcinkus reste en place sans être inquiété. À ce stade, il est difficile de croire que Paul VI n'était au courant de rien, d'autant que le Vatican possède son propre service de renseignement. Lorsque Jean-Paul Ier prend ses fonctions et découvre une partie du fonctionnement de l'IOR, il est bien évidemment effaré. Il l'est d'autant plus qu'au Vatican, certains savaient. Le secrétaire d'État, le cardinal Villo, par exemple, est en poste depuis longtemps. La nomination du nouveau pape est saluée, si l'on peut dire, par la publication dans le journal El Mundo d'une lettre ouverte au Vatican. Le grand quotidien s'interroge sur l'éthique financière de l'IOR. Il se demande notamment s'il est normal qu'une banque catholique investisse dans des sociétés dont le but est le seul profit financier. S'il est normal que le dirigeant de l'IOR ait des liens étroits avec le dirigeant d'une grande banque comme Ambrosiano. S'il est normal, enfin, que la Banque du Vatican aide des citoyens à échapper au fisc. Le pape convoque donc un certain nombre de prélats en vue de réformer les instances financières et fait savoir qu'il faut couper les liens entre l'IOR et la Banque Ambrosiano. Pour certains observateurs, les jours de Paul Marcinkus à la tête de l'IOR sont comptés. D'autant qu'entre les deux hommes, le courant ne passe pas depuis l'épisode de la Banca Cattolica del Veneto en 1973. Dans ses discours, le pape met toujours l'accent sur la nécessaire simplicité de l'Église et de ses représentants. Mais dans l'un d'entre eux, il dit savoir qu'il doit agir avec bienveillance, mais devoir aussi agir avec fermeté quand la situation l'exige. Est-ce un message adressé à Marcinkus et à ses proches ? Le souverain pontife va alors recevoir un second document émanant d'un certain Mino Pecorelli. Cet homme est à la tête d'une agence d'information spécialisée dans la dénonciation de scandales. Et il fait parvenir au Vatican une liste d'un peu plus d'une centaine de noms, parmi lesquels de nombreux ecclésiastiques qui seraient membres d'une mystérieuse loge maçonnique. Dans cette liste figurent entre autres les noms de Paul Marcinkus et Jean-Marie Villo, le secrétaire d'État du Saint-Siège. Là encore, le pape consulte ses conseillers et ils sont au courant. Une réforme en profondeur s'impose et Jean-Paul Ier s'apprêterait à écarter Jean-Marie Villo et à renvoyer Paul Marcinkus dans son diocèse de Chicago. On ne trouvera aucun document relatif à ces changements voulus par le souverain pontife. Jean-Paul Ier est retrouvé sans vie dans sa chambre un peu avant 5 heures du matin, le 29 septembre 1978. Dès lors, l'histoire devient confuse. La religieuse Vincenza Taffarel, qui est la gouvernante d'Albino Luciani depuis de nombreuses années, avait l'habitude d'apporter au pape son café vers 4h45 tous les matins. Elle le déposait devant la porte de sa chambre. Repassant dans le couloir un peu plus tard ce matin-là, sœur Vincenza s'aperçoit que le café est toujours là. Elle s'inquiète et ouvre la porte. La lumière est allumée et le pape est mort, assis dans son lit. Il porte toujours ses lunettes et tiendrait visiblement des feuillets dans sa main. Le témoignage de la sœur est très vite escamoté par le Vatican, qui prétendra que le corps du pape a été découvert par son secrétaire particulier. Le Vatican expliquera ce mensonge délibéré par le souci d'avoir voulu éviter la possible propagation de rumeurs que la présence d'une femme dans les appartements pontificaux aurait pu faire naître. Les feuillets qu'aurait vus la sœur Vincenza ne seront jamais retrouvés, et on prétendra qu'au moment de sa mort, le pape lisait un texte pieux. On ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec la mort du pape Pie XI, intervenu en 1939. Certes, Pie XI était malade, mais il décéda alors qu'il travaillait visiblement sur un texte condamnant la complaisance du Vatican à l'égard du nazisme et du fascisme. Ce texte ne sera retrouvé que 50 ans plus tard. Les appartements qu'occupait Jean-Paul Ier sont alors immédiatement vidés de tout leur contenu. Jusqu'au moindre effet personnel, il ne reste rien. Le médecin-chef du Vatican va alors très vite conclure à une mort naturelle, probablement due à un infarctus du myocarde, et qui serait intervenu la veille vers 23 heures. Il n'aurait visiblement pas jugé utile de consulter le dossier médical comme le lui proposait le docteur Daros, le médecin personnel du pape. La dépouille de Jean-Paul Ier est immédiatement embaumée, empêchant toute autopsie. L'empressement du Vatican va rapidement faire naître une polémique. Il y a d'un côté ceux qui soutiennent que le pape était malade, s'appuyant sur le fait qu'il avait déjà connu plusieurs alertes cardiaques et qu'il prenait un traitement. Ceux-là affirmeront que dans l'après-midi précédant sa mort, Jean-Paul Ier s'était plaint de douleurs thoraciques. Mais son médecin personnel affirmera qu'il a eu une conversation téléphonique avec son patient dans la soirée et que celui-ci ne s'est plaint de rien. Si Jean-Paul Ier voulait réformer la Banque du Vatican, son successeur n'y donnera pas suite et Paul Marcinkus sera maintenu dans ses fonctions. En mars 1979, Mino Pecorelli, qui avait communiqué au Vatican la liste de prélats appartenant à une mystérieuse loge maçonnique, est assassiné. On apprendra que Pecorelli était un membre de cette organisation. Apparemment, la divulgation de cette liste poursuivait moins des objectifs de révélation que la volonté de faire chanter le vénérable de cette loge. 4 mois plus tard, c'est Giorgio Ambrosoli qui tombe sous les balles d'un tueur. Il était le liquidateur judiciaire de l'Empire de Michele Sindona et il avait mis à jour les liens entre les banques de Sindona et la mafia. En 1982, la faillite du Banco Ambrosiano provoque un séisme politique en Italie. Son dirigeant, Roberto Calvi, parvient à s'enfuir, mais le 18 juin, son corps est retrouvé pendu sous un pont de Londres. L'enquête va conclure à un assassinat déguisé en suicide. La justice italienne lancera un mandat d'arrêt à l'encontre de Paul Marcinkus, pour l'entendre dans le cadre de l'enquête sur la faillite de la Banque Ambrosiano. Mais Jean-Paul II s'opposera toujours à son extradition. Les investigations sur la faillite des sociétés de Michele Sindona vont conduire à la découverte de la loge Propaganda 2, loge P2, dont Mino Pecorelli annonçait l'existence en 1978, dans sa fameuse liste transmise au Vatican. Le 22 mars 1986, Michele Sindona est retrouvé mort dans la cellule d'une prison de haute sécurité, empoisonné au cyanure. C'est seulement en 1989 que Paul Marcinkus sera discrètement poussé vers la sortie, renvoyé vers son diocèse de Chicago. Il faut dire que le dirigeant de l'IOR était devenu un hôte très encombrant. En 2008, un repenti de la mafia affirmera que Jean-Paul Ier a bien été assassiné et que ses commanditaires étaient Licio Gelli, vénérable de la loge P2, et Roberto Calvi, membre de cette même loge. Il précise que les exécutants ont été Paul Marcinkus et Jean-Marie Villot, le secrétaire d'État du Vatican. Quel crédit donner à ces affirmations ? Le fait est que pour des raisons diverses, ces 4 personnages avaient tout à craindre des réformes que voulait apparemment entreprendre Jean-Paul Ier. Le scandale financier a fini par éclater, mais l'archevêque Marcinkus n'a jamais été inquiété par la justice. Quant à la sœur Vincenza Taffarel, elle a visiblement prêté serment de ne plus parler de cette histoire et a été discrètement envoyée dans un couvent où elle a fini ses jours en 1984. Je vous retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode des Zones d'ombre de l'histoire et d'ici là, vous pouvez réécouter tous les épisodes sur le www.radiocampusparis.org à la page de l'émission Les Zones d'ombre de l'histoire.